philosophie du vivant, Père Philippe, 15 décembre 1982, Rimont.
Alors, quelques questions, je réponds, et puis nous continuerons après. Pourriez-vous nous dire sur quoi se fonde la distinction entre ce qui se meut et ce qui est mu? Ce qui se meut est saisi comme possédant une certaine autonomie. Ce qui est mu comme possédant une certaine dépendance. Ben, vous faites l'expérience tous les jours, je crois. C'est sa base d'expérience. Hein. C'est l'expérience. Vous montez l'escalier. Vous marchez. Vous vous levez. Donc, c'est bien ce qui se meut. Et puis, tout d'un coup, vous vous endormez. Puis on vous porte pendant ce temps-là d'un lieu à un autre. Puis vous dégringolez de table. Non pas parce que vous êtes ivre-mort, mais parce que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous tombez. C'est bien ce qui est mu. Vous recevez un gros coup de poing de quelqu'un. C'est bien ce qui est mu. Vous voyez, il y a au fond cette expérience que nous faisons, et nous la faisons constamment, je dirais tout au long de nos journées. Voyez, la pesanteur, hein, la manière dont vous vous asseyez. De temps en temps, vous vous asseyez comme un vivant, et de temps en temps, vous vous asseyez comme quelqu'un qui est mu. Ça, c'est net. Le poids de dégringolade, on sent très bien. C'est, quand un régiment arrive, on a l'impression que ce sont les êtres qui se meuvent. Et puis de temps en temps, ils sont mus. Il faudrait pouvoir enregistrer, vous voyez. Alors on verrait à ce moment-là ce qui se meut et ce qui est mu. C'est ces expériences-là que nous faisons, de savoir ce qui est mu et ce qui se meut et ce qui est mu. Vous ne pouvez pas le saisir de l'extérieur, hein. C'est l'expérience que vous faites en vous, par vous-même. Et alors, vous la projetez sur les autres, cette expérience. Vous projetez sur les autres cette expérience que vous faites constamment et que vous faites par vous-même. Et vous voyez en effet qu'il y a un instinct de la vache qui se meut, ou d'un petit moustique, il se meut. Et puis à d'autres moments, vous voyez bien ce que ça représente, la chute des pierres, quelque chose qui est mu. La chute d'une quantité de choses, c'est ce que les anciens faisaient. Hein. À titre d'expérience, c'est l'expérience qui nous fait comprendre cette distinction, et à partir de cette distinction commence l'induction. Donc là, c'est d'ordre expérimental, c'est d'ordre descriptif. Vous pouvez décrire tout ce qui se meut. C'est pour ça qu'Aristote dit ça très simplement, très rapidement, ce qui se meut, c'est celui qui se nourrit, c'est celui qui respire, c'est celui qui connaît, et celui qui connaît le mouvement local. Il résume tout là, hein, pour en ajouter des quantités d'autres. Toutes vos expériences qui sont des expériences vitales, c'est tout. Alors, il faut réfléchir là-dessus, sur ces expériences proprement dites, essayer de les décrire pour comprendre le caractère propre de celui qui se meut. Vous voyez, quand Marois faisait son cours sur la politique de la vie, alors c'est à la fois une expérience et en même temps le fruit de l'expérimentation. Ce que nous dit notre expérience prolongée par le microscope électronique où on voit des bombardements d'atomes. On voit toutes ces choses-là. C'est vrai, c'est un monde tout à fait particulier que le monde du vivant. Il y a des analogies avec. Alors c'est ça qui serait très intéressant à voir, vous voyez. Ça, ce serait très intéressant. À voir comment l'expérience simple, directe, nous montre très nettement la différence entre le monde de ce qui est mu et ce qui se meut. Alors que l'expérimentation scientifique, entre le domaine physique, chimique, et le domaine de la chimie organique de celui qui se meut, est beaucoup plus difficile à faire. et qu'on a l'impression quelquefois la frontière, et c'est en sens ça qu'on dira le point de vue. Pourquoi c'est les sensibles propres et les sensibles communs? Alors ça serait intéressant, ça, si quelqu'un arrivait à faire ce petit travail-là, très simple, mais qui serait intéressant. Parce que c'est là où on voit les frontières, vous comprenez, entre un monde des sensibles propres. Les sensibles propres nous mettent beaucoup plus directement en présence de la distinction entre ce qui se meut et ce qui est mu. Tandis que les sensibles communs vont nous montrer des choses communes. C'est le mouvement. Et des deux côtés, c'est le mouvement. Et d'un côté, c'est le mouvement qui se meut. Et l'autre qui est mu. Mais c'est toujours le mouvement. Et donc, au point de vue de la mensuration du mouvement, c'est toujours le mouvement. Au point de vue de la quantité, au point de vue du nombre, au point de vue de la figura. Alors ça explique, vous voyez, comment il y a des positions au point de vue scientifique entre le point de vue biologique et le point de vue chimique ou le point de vue physique qui sont beaucoup plus difficiles à faire qu'au niveau commun, au niveau de notre expérience ordinaire. Au niveau de notre expérience ordinaire, quelqu'un qui vous dirait « Toute votre vie est réductible, tout ce qui se meut en vous est réductible à ce qui est mu », vous direz « Mais il est fou ». Il est complètement fou. Je sais très bien la différence qu'il y a entre se mouvoir et être mu. Je sais très bien la différence. Tandis qu'au niveau connaissance scientifique, c'est pas si commode que ça. Et le passage du vivant au non-vivant, c'est le virus. Je me souviens quand je faisais le cours du vivant au seul choix, parce que j'ai fait le cours du vivant au seul choix, le cours de métaphysique et le cours du vivant. Et alors quand je faisais ce cours du vivant au seul choix, au début de l'année arrivée des étudiants qui avaient fait un peu de science et des choses comme ça. Alors, père, j'espère bien que vous commencerez votre cours pour nous montrer la distinction entre le vivant et le non-vivant. J'espère bien que vous montrerez ça et que vous nous montrerez combien c'est difficile de faire cette distinction. Et donc, y a-t-il une philosophie du vivant? Elle dit oui, mais le philosophe est intelligent, il ne commence jamais par les problèmes difficiles. Parce que les problèmes frontières du virus. Les problèmes frontières entre le vivant et le non-vivant, mais sont très difficiles. Il ne faut surtout pas commencer par les problèmes difficiles. On a déjà assez de peine à entrer dans les problèmes dont le point de départ est facile. Alors les problèmes difficiles, mais on vient après. Ça, c'est les problèmes frontières. Les problèmes frontières, c'est les problèmes du comment. Ce n'est pas du tout les problèmes du principe. C'est comment la vie est installée dans le physique. Et comment le physique conditionne la vie d'une manière telle que de temps en temps il y a des situations limites. Il y a des situations limites au point de vue de l'homme, il y a des situations limites entre le point de vue du vivant et du non-vivant. Alors les situations limites est très très difficile à prévoir, à voir, parce que le poids du conditionnement physique est tel qu'on ne voit plus ce qu'il y a de propre au vivant. Oui, alors là il faut bien comprendre, hein, notre philosophie part d'une expérience qu'on peut dire simpliste, ça m'est égal. Ça m'est égal. Est-ce que c'est simple de connaître? C'est simpliste de connaître. C'est simpliste de dire que j'aime. C'est simpliste, oui. La philosophie, elle part de l'expérience de l'homme. Vous voyez, et d'une expérience directe, immédiate. Et c'est vrai, c'est ça auquel on revient tout le temps. Et donc cette expérience entre le vivant et le non-vivant, évidemment, on peut la considérer comme une expérience simpliste, naïve. Vous voyez, elle est naïve. Mais on s'en sert tout le temps. On s'en sert tout le temps, c'est évident. Même le médecin s'en sert, et même le savant biologiste s'en sert dans sa vie privée. C'est ça qui est extraordinaire. Mais là, il y a une différence entre le domaine. Maintenant, nous faisons de la science. Puis maintenant, nous vivons. Vous voyez la distinction que font certains philosophes, parce qu'ils ne voient pas assez que la philosophie doit imprégner toute la vie, doit informer toute la vie. La philosophie n'est pas quelque chose de particulier à la vie, à ma vie quotidienne. Elle doit éclairer ma vie quotidienne. C'est ça qu'on a beaucoup de peine à entrer dans la philosophie. C'est à cause de ça qu'on a beaucoup de peine d'entrer dans la philosophie. Parce qu'on est tellement habitué à des casiers aujourd'hui, à des tiroirs, avec des verrous. Tellement habitué à ça, qu'on ne comprend plus ce regard sur l'homme. On oublie l'homme, vous voyez, beaucoup plus que l'être. C'est beaucoup plus ça. Ça, je crois que c'est beaucoup plus vrai. On oublie l'homme. Ce n'est pas l'être qu'on oublie, mais c'est l'homme qu'on oublie. Et alors, on oublie de regarder l'homme pour lui-même, et tel qu'il se manifeste, tel qu'il vit. Et c'est à ce niveau-là que je fais la distinction entre ce qui se meut et ce qui est mu. Bon, je vais poursuivre cette distinction parce que c'est justement le problème que nous allons voir. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous étions restés à ce problème, la distinction entre les degrés de vie et les pouvoirs de l'âme, les puissances de l'âme. Et je vous avais dit qu'il y avait là un problème très important. Très important parce que si je suis attentif à cette distinction des degrés de vie, et des puissances de l'âme. C'est amusant, je reste, on dit degré de vie et puissance de l'âme, on ne dit pas les degrés de l'âme. C'est toujours intéressant de voir ces expressions. Vous dites degré de vie et puissance de l'âme, vous ne dites pas les puissances de vie. Alors, posez-vous la question, nous allons diviser ça, hein. Les degrés de vie, 1, 2, 3 degrés de vie. Les puissances de l'âme, 1, 2, 3, 4, 5. Puis on va en avoir, hein. Je ne sais pas combien il y en a. C'est facile à compter. C'est. Vous pouvez les compter facilement. Alors, c'est donc une division qu'on voit. Est-ce que la division des degrés de vie est plus profonde que la division des puissances de l'âme? Ou est-ce que la division des puissances de l'âme est plus profonde que celle des degrés de vie? C'est toujours intéressant de se poser la question. Première remarque, avant de revenir sur les degrés de vie, première remarque, c'est que à l'intérieur des degrés de vie, je trouverai des puissances diverses de l'âme. À l'intérieur des degrés de vie. Tandis que je ne vais pas dire qu'à l'intérieur des puissances de l'âme, je vais trouver des degrés de vie. Ça, c'est une petite remarque très simple, très directe, que nous faisons spontanément. Mais si nous la faisons spontanément, réfléchissons pourquoi ça veut dire. Donc, si la distinction des puissances de l'âme se fait à l'intérieur des degrés de vie, ça prouve que c'est une distinction qui, d'une certaine manière, va plus loin. C'est sûr, parce qu'elle est contenue par l'autre. Vous voyez ? Mais d'une autre manière, et c'est là où il faut bien voir, la puissance des degrés de vie va plus loin parce que la vie englobe l'âme. C'est pour ça que c'est pas si commode que ça. Ce sont deux divisions qui s'enchevêtrent l'une dans l'autre sous des points de vue différents. Alors, il s'agit de comprendre toute division. Pour bien la comprendre, il faut comprendre sous quel point de vue se fait cette division. Donc, division de vie. La vie se mouvoir. Division de l'âme, puissance de l'âme, opération de l'âme, opération vitale. C'est à partir d'opérations irréductibles les unes par rapport aux autres que je pose des puissances diverses. C'est à partir de ce s'émeuveré différent que je vais poser des degrés de vie différents. Vous voyez comme c'est différent comme position. Hein. Le s'émeuveré est très très vaste. Il englobe tout le point de vue des opérations vitales. Toutes les opérations vitales, c'est se mouvoir. Mais c'est l'aspect générique. On pourrait dire, comprenez bien. C'est l'aspect générique, se mouvoir. Toute opération vitale se meut. Toute opération vitale implique le s'émeuveré. Donc, le point de vue de s'émeuveré est d'une certaine manière, comprenez bien, générique. Il y a donc une extension beaucoup plus grande que celle des opérations vitales. C'est pas étonnant, parce que la vie a quelque chose de plus. Et c'est pour ça que, de fait, à l'intérieur des degrés de vie, je peux regarder les puissances de l'âme. Première constatation, ça. Deuxièmement, les opérations vitales, comment vont-elles nous permettre de poser des puissances différentes en raison de leur caractère spécifique? Oui, générique, spécifique. Le spécifique, si on a un tout petit peu de logique, hein, vous avez quand même un tout petit peu le sens de l'aspect du genre et de la différence spécifique. Quels sont ceux qui ne savent pas ce que c'est que le genre et la différence spécifique? Lève la main. Alors, je ne demande pas aux autres s'ils savent, je vais les interroger. Alors là, ça sera bien. Bon, alors, en deux mots, hein, c'est ça, vous le voyez en logique, alors je ne le précise pas. Le genre, pensez toujours à animal. Et la différence spécifique, pensez à rationnel. Alors à ce moment-là, vous comprenez par un exemple. Le genre, c'est l'universel fondamental, celui qui englobe le plus englobant. Le genre se prend toujours du côté de la matière, donc l'aspect le moins déterminé. Et la différence spécifique se prend du côté de la forme, et la différence spécifique, elle, a une extension moins grande, mais une compréhension plus grande. Alors vous voyez, c'est pour ça que quand je regarde ces deux divisions, c'est si difficile de dire laquelle est première. Sous un aspect, sous un certain aspect, les degrés de vie ont quelque chose de générique et donc une extension plus grande. Donc, ex parte materiae. C'est-à-dire du côté de la matière. Ex parte materiae. Tandis qu'au contraire, les opérations vitales du côté spécifique, c'est le côté de la compréhension. Du côté de la compréhension, elles vont plus loin. Parce qu'elles regardent le principe de la vie, l'âme. Et c'est vrai que si je regarde le caractère spécifique des opérations vitales, j'ai donc une division qui va se prendre non plus du côté de la matière et du côté générique, mais ça va se prendre du côté de la cause formelle. C'est une division de structure des puissances de l'âme. C'est une division de la cause formelle. Tandis qu'ici, c'est une division qui se prend du côté de la matière, du moins elle est fondée sur la matière, elle va se prendre du côté de la cause efficiente et de la cause finale. Je crois que c'est ce qu'on doit dire. Vous allez voir. Hein? C'est intéressant à voir ça. Parce qu'alors à ce moment-là, vous comprenez mieux comment ces deux divisions sont dans deux perspectives différentes. Vous ne pouvez pas les ramener l'une à l'autre. Impossible. Vous ne pouvez pas les ramener l'une à l'autre. Vous pouvez en saisir une, pas saisir l'autre. Ça, ça peut se faire. Il y a certaines philosophies qui en ont saisi une, qui n'ont pas saisi l'autre. Oui, on comprend ça. L'aspect pythagoricien a saisi les degrés de vie. Il n'a pas regardé les puissances. Aristote emprunte les degrés de vie aux pythagoriciens. Ils empruntent, ils le repensent. Hein, parce que les pythagoriciens n'ont pas vu de la vie finale, ils n'ont pas vu de l'efficience. Mais Aristote, dans son analyse cause efficiente, cause finale, et dans son analyse cause formelle, la structure. Oui.
Et la puissance comme telle, ça n'est pas une causalité efficiente.
Oui, mais ce n'est pas du côté de la causalité efficiente que je distingue les puissantes les unes à côté des autres. Je diversifie, il s'agit de diversifier, spécification. Je diversifie les puissances vitales, du moins par les opérations vitales, dans leur caractère spécifique. Pour pouvoir savoir si telle opération vitale exige de poser telle dynamis, il faut regarder un caractère spécifique irréductible.
C'est dans l'ordre de recherche.
Mais c'est dans l'ordre de la recherche de l'analyse. Oui, dans l'ordre de l'analyse. Puisqu'au fond, je divise, donc c'est dans l'ordre de l'analyse. Oui, je divise, j'analyse. Dès que je divise, j'analyse. Alors, vous voyez, c'est très intéressant, parce que si vous avez par derrière l'esprit toujours la division dialectique, vous voyez qu'une division philosophique se fait diversement. La division des degrés de vie n'est pas la même que celle des puissances de l'âme. Ça, c'est un cas tout à fait majeur et tout à fait intéressant à ce point de vue-là. Et assez unique, du reste. Parce que c'est deux divisions qui sont différentes, et deux divisions très différentes. L'une se fait, alors, par le point de vue de la cause efficiente et par le point de vue de la cause finale, et l'autre se fait par le point de vue de la cause formelle. Donc vous avez des divisions qui sont différentes. Elles ne sont pas étrangères l'une à l'autre, parce qu'il y a toujours un lien. Il y a un lien entre la cause formelle et la cause finale. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que la cause finale, je dois la mettre du côté des opérations vitales ou du côté des degrés de vie? Je la mets du côté des degrés de vie, parce que la cause efficiente, vitale, implique la finalité. On va le voir, ça. Et simplement ici, pour réfléchir un peu, parce qu'on avait vu ça très rapidement, c'est important d'y revenir. Et comme c'est une division très importante dans le De Anima d'Aristote, c'est toute la structure du De Anima d'Aristote. Il faut se demander si cette structure, on doit encore l'employer ou plus l'employer. Or, pour savoir si on doit l'employer ou pas l'employer, si on doit savoir si on doit l'employer ou au contraire la rejeter, il faut la comprendre. Il faut comprendre que nous sommes en face de quelque chose que l'intelligence humaine doit saisir. Je vois la complexité des opérations humaines. Ça, c'est facile à comprendre. J'en vois l'unité. Est-ce que je peux établir l'ordre entre ces diverses opérations? Ou est-ce que je dois simplement décrire la diversité? Alors, je vois qu'il y a deux manières de les ordonner. Une, par les degrés de vie, du moins traditionnellement. En me référant à Aristote, hein, j'ai tout à fait le droit de penser avec Aristote, c'est pas interdit. Bon, je vois que les degrés de vie chez Aristote existent. Ils existent bien avant Aristote chez les pythagoriciens. Ils existent aussi chez Platon. Les degrés de vie, c'est très très général, vous voyez. C'est très intéressant parce que les degrés de vie unissent le platonisme, unissent les pythagoriciens, le platonisme et l'aristotélisme. Il y a trois esprits qui sont unis par les degrés de vie. Donc tous ces philosophes font admettre les degrés de vie. Et puis ce qu'Aristote apporte en plus, ce qui n'est pas chez les pythagoriciens, ce qui n'est pas chez Platon, c'est les puissances de l'âme diverses. Oui. Alors c'est intéressant, ça c'est typiquement aristotélicien. Ça c'est pas typiquement aristotélicien. Ex parte généré, pas étonnant. C'est générique. N'est-ce pas? Ce qui est typiquement aristotélicien, c'est toujours le côté spécification. C'est le côté propre d'une analyse qui va plus loin. Alors c'est intéressant à voir ça, à essayer de comprendre ces deux manières de diviser. Une division dialectique est toujours uniforme. Une division philosophique, elle se fait selon les causalités. Toujours. Elle se fait selon les causalités. Et elle implique le point de vue des causalités. Alors c'est intéressant de voir comment une division se repose. Alors on peut se poser, est-ce qu'il y a d'autres divisions dans la complexité? Non. Il y aura deux divisions qui vont chevaucher l'une par rapport à l'autre. Il y en a une fondamentale, les degrés de vie. Elle est fondamentale. Et d'une certaine manière, je ne dis pas qu'elle est ultime, mais elle est fondamentale et d'une certaine manière ultime. Tandis que celle des puissances de l'âme est une analyse plus poussée, elle est spécifique. Elle n'est pas ultime. Parce que la division ultime, c'est toujours du côté de la cause finale. C'est pour ça qu'il y en a une qui va se transposer directement en éthique et l'autre ne se transpose pas directement en éthique. C'est aussi très important pour ça. L'une se transpose directement en éthique, parce que la division des degrés de vie, elle se retrouve en éthique. Les pythagoriciens l'avaient pris du côté éthique. Il y a des gens qui vivent uniquement pour leur ventre. Très bien, degré de vie. Pour que le ventre ait la forme sphérique, n'est-ce pas? Tendre à la forme, alors on voit très bien. Ils vivent que pour ça. Ou bien qu'ils vivent au contraire pour l'élégance du corps, le point de vue sportif. Ça peut très bien se faire. Il y a des gens qui vivent uniquement pour le point de vue animal de la jouissance. Et puis il y a des gens qui vivent pour la contemplation. Il y a des gens qui vivent pour la politique et des gens qui vivent pour la contemplation. Vous voyez, alors les degrés de vie vont prendre des nuances différentes parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes qu'ici. Ils seront au niveau éthique, mais on trouvera la même chose. On trouve le même problème en éthique. Tandis qu'en éthique, les puissances de l'âme sont prises toujours d'une façon beaucoup plus complexe. Ce n'est pas du tout la même analyse. Vous n'allez pas donner l'analyse des vertus en fonction des puissances de l'âme. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais pas entièrement. Ça, on verra ça. C'est intéressant à regarder. Alors, regardons d'abord, en premier lieu, ce qui est plus radical. Donc, les degrés de vie. Comprendre comment cette division se prend du côté de la cause efficiente et du côté de la cause finale. Du côté de la cause efficiente, puisque c'est le sémoguer, ça qu'il faut comprendre, on se meut. Il est bien évident que l'autonomie va en augmentant, suivant que vous êtes en face d'une opération spirituelle ou en face d'une opération biologique. Et vous allez tout de suite comprendre, l'autonomie, ça se prend à partir du milieu, le milieu vital. Vous êtes toujours dépendant du milieu vital, hein, toujours. Mais certaines opérations se libèrent du milieu biologique, au moins momentanément. Hein. Momentanément, pas tout le temps, parce que vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de manger, et si vous ne mangez pas, vous ne dormez pas, au bout d'un certain temps, vous n'arriverez plus du tout à penser, c'est sûr. Donc vous pouvez arriver à diminuer. Mais c'est sûr que dans mes opérations vitales, dans ma vie, je vois que certaines opérations peuvent se couper du milieu biologique, du milieu imaginatif. Très intéressant. Tout le domaine de la représentation. Mais tout le domaine des propagandes et des réclames, tout le problème de ça, tout le milieu sur lequel se fait de fait les influences. Il y a quelque chose qui normalement devrait dépasser cela, c'est le nous dans sa pensée. Je suis plus indépendant de mon milieu par mon intelligence que par mon affectivité. Parce que mon affectivité est toujours liée au sensible. Tandis que le nous, il est abstrait. Je suis plus lié par rapport au milieu. Donc certaines opérations apparaissent comme ne demandant au milieu rien du tout du côté de leur spécification. Dans leur ordre d'exercice, ils sont toujours dépendants du milieu, c'est évident, mais l'ordre d'exercice pourra se libérer plus. Il y aura toujours une dépendance puisque toute opération intellectuelle dépend d'une image dans son exercice. Donc vous allez dire dans le c'est mauvais ré, oui, dans le c'est mauvais ré. Mais le contenu du c'est mauvais ré peut être au-delà du milieu. Vous avez ensuite un autre milieu, le milieu psychologique. Le milieu psychologique dans lequel je vis, le milieu de culture, si vous voulez. L'intelligence dépend du milieu de culture, mais il peut le dépasser. La preuve, c'est qu'il peut le faire. Il peut le dépasser. Et il peut l'augmenter. Tandis qu'il y a en moi quelque chose qui est complètement dépendant du milieu culturel dans lequel tout mon psychisme est totalement dépendant. Mes passions sont totalement dépendantes. Et puis, il y a un milieu encore plus tenace. C'est le milieu où poussent les carottes et les navets. C'est là où je suis encore plus dépendant. Je suis dépendant du milieu de la cuisine. C'est toujours dans les fondations. C'est vrai ça. Et l'animal est totalement dépendant de ça. Il n'a pas beaucoup d'herbe à brouter, et puis quand il a pu brouter toute son herbe, qu'est-ce qu'il a à faire? Vous allez dire à la vache, pensez maintenant. Puisque vous avez brouté toute votre herbe. Non, non. Il va dormir à côté, vous savez, ça c'est sûr. Parce qu'il ne fait que brouter. Alors, il y a des gens qui font brouter. La salade, ça, elle a fond brouté. Alors c'est la dépendance à l'égard du milieu vital, voyez, la vie biologique dans laquelle on dépend totalement. Troisième milieu, voyez. Alors vous avez trois degrés de vie où vous voyez le sémoveré différent, plus ou moins libre. Il y a du plus et du moins. Alors si vous réfléchissez là-dessus, vous voyez qu'en effet, ces trois degrés de vie que vous pouvez distinguer, un degré spirituel. Je ne parle pas du degré affectif, vous voyez. Les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance et pas du côté de l'amour. Ça, on y reviendra, ça sera très intéressant à voir. Se prennent du côté de la connaissance, puisque c'est du côté de la connaissance que je vois la plus ou moins grande autonomie à l'égard du milieu vital. Ça, je peux le constater, vous voyez, je peux le décrire, ça. Je vois qu'en effet, lorsqu'il s'agit de la pensée, je peux penser, contempler dans n'importe quel milieu. C'est pas toujours commode, hein, parce que je peux être ennuyé par telle ou telle chose, et alors arriver difficilement à m'abstraire, comme on dira. Hein. Il y a des gens qui peuvent travailler dans le train, et il y a des gens qui peuvent difficilement travailler dans le train. Et il est évident que ces compartiments nouveaux collectifs
sont plus difficiles pour l'abstraction que lorsqu'il s'agissait d'un petit compartiment où on était que 3-4 et quand les gens vous laissaient tranquille, on pouvait arriver à travailler. Tandis qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Les rentrées de train à 11h du soir, c'est pas très commode de travailler à ce moment-là. C'est le poids de la collectivité, vous voyez, le poids de la collectivité. C'est plus difficile. On s'abstrait plus difficilement. C'est des expériences que nous faisons tout le temps, ça. Pour voir, je sais très bien que je peux m'abstraire. Mais je suis fatigué, les gens sont fatigués, et le poids du nombre est plus grand. Alors je m'abstrais moins. Alors ça me réduit à quoi ? À regarder le voisin, à bavarder avec lui, à écouter un ivrogne qui chante. Ce contexte-là. Oui, je retombe dans le milieu psychologique. Je retombe dans le milieu sensible, passionnel, imaginatif. Là, il n'y a pas besoin de bruit. Il y avait un cinéma. Je retombe dans le milieu sensible, passionnel, imaginatif. Là, il n'y a pas besoin de bruit. Il y avait un cinéma, tout le monde regarde ça. En avion, hein, quand il y a un cinéma, comme c'est difficile de s'abstraire. Hein. C'est très difficile le poids de la chose. C'est beaucoup plus difficile de s'abstraire. On peut, on le sait qu'on peut. Mais si on est fatigué, comme c'est toujours au milieu de la nuit que ça se donne, on est fatigué, c'est beaucoup plus difficile de s'abstraire, parce qu'on est psychologiquement saisi par ça. Oui, on est dépendant, notre psychisme dépend du milieu dans lequel on est. Et puis alors, lorsqu'il s'agit de la vie végétative, on est dépendant de l'aliment. Donc on est dépendant de ce milieu. Encore plus, ça c'est sûr, encore plus dépendant. C'est pour ça qu'on emporte sa nourriture avec soi. Et que l'avion est remarquable pour ça. Il emporte sa nourriture avec soi. Ou on l'emporte dans l'auto. Vous voyez, ces choses-là qui montrent la dépendance. Il n'y a qu'à réfléchir sur la dépendance qui existe dans vos opérations vitales. Vous en trouverez trois. Réfléchissez bien à trois types d'autonomie différentes. En raison de la dépendance à l'égard du milieu dans lequel on est. Première constatation. Je vais un peu plus loin. Je regarde les finalités. Je peux regarder ça. C'est aller plus loin, vous voyez. Mais je regarde d'abord du côté de l'autonomie vitale. Parce que l'autonomie vitale, ça, tout le monde peut la constater. Même si je n'admets pas la finalité. Mais aujourd'hui, tout le monde admet une certaine finalité, une téléonomie, lorsqu'il s'agit du vivant, des opérations vitales. Même si ce n'est pas la vraie finalité, c'est quand même quelque chose de la finalité. Je m'aperçois qu'en effet, quand il s'agit de la vie végétative, quelle est la finalité de la vie végétative ? Première finalité, hein, je prends une première finalité. On verra qu'il y a une autre finalité. Première finalité très simple de la vie végétative, c'est tout simplement de ne pas avoir trop faim et de ne pas avoir trop soif. C'est de se trouver pas trop mal dans son corps. Donc, c'est d'avoir un corps qui soit en bonne santé. Parce qu'un corps en bonne santé fait qu'on oublie plus facilement son corps que quand il n'est pas en bonne santé. Quand vous avez mal à la tête, c'est plus difficile d'oublier votre corps. Vous pensez à votre tête. Quand vous avez très froid aux pieds, vous êtes présent dans vos pieds. C'est ennuyeux, ça. Alors, vous êtes présent dans vos pieds et vous avez beaucoup de peine. Quand vous avez une circulation normale, vous n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas, mais les souris viennent vous rappeler que vous avez des pieds, selon les stoïciens, n'est-ce pas ? Parce que pour les stoïciens, la finalité des souris, c'était de réveiller l'homme au matin. Alors donc, il y a une finalité propre de la vie végétative qui est très très simple, immanente au corps. La finalité de la vie végétative est immanente au corps. Première finalité. Deuxième finalité que je peux voir du côté imaginatif, le point de vue de la représentation. Une finalité qui n'en est pas une, d'une certaine manière. Vous voyez, c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir la première différenciation, la représentation. La représentation, mais c'est infini la représentation. je peux jamais m'arrêter dans l'ordre de la représentation. Et vous le sentez très bien, du reste. Donc, j'ai un milieu anarchique, sans finalité. C'est encore une manière de le reconnaître. Le milieu psychique est anarchique. Le milieu imaginatif est anarchique. Une imagination en appelle une autre imagination. Et c'est pour ça que quand on commence à décoller au point de vue imaginatif, on décolle bien. Parce que c'est anarchique. Il n'y a plus de finalité. On va très très loin, très très loin. Et on va le plus haut possible. Et on descend le plus bas possible. Et on descend à la droite et à gauche le plus loin possible. C'est imaginatif, ça. C'est extraordinaire, c'est anarchique. Et ça, c'est ça décoller. Décoller, c'est entrer dans le domaine anarchique du psychisme. Imaginatif. Et c'est très intéressant, c'est comme un gosse du reste. Un gosse, c'est pas gênant qu'il décolle quand il joue. Vous savez bien, vous le voyez jouer, et puis vous lui dites bonjour, et s'il est astucieux, plein de prix de son jeu, il vous entraîne dans son jeu, tout de suite. Exactement comme quelqu'un qui décolle. Il vous entraîne dans son jeu, mais là c'est plus grave. C'est un jeu plus grave, mais au fond c'est la même chose. Et vous devez entrer dans ce jeu, si vous voulez... continuer la route avec lui, quoi. Alors, vous entrez dans ce jeu, vous voyez qu'en effet, au bout d'un certain temps, vous dites, vraiment, hein, c'est un peu trop loin, c'est un peu du tout. Bon, il décolle. Alors, troisième finalité, alors là, il y a une finalité. Vous voyez, il n'y a pas de finalité dans le domaine psychique. Ça explique beaucoup de choses au point de vue psychologique, vous savez, cette constatation. Biologiquement, il y en a. C'est évident, il y a la santé, il y a l'harmonie. Il y a une espèce de sportif. Première chose qu'on constate, c'est immanent. Tandis que dans le point de vue psychique, le point de vue sensible, le point de vue imaginatif, on verra ça, parce que c'est des domaines très importants à voir et à préciser ça. On verra que de fait, dans ce domaine, d'une certaine manière, ça reste immanent et ça donne l'impression du transcendant. C'est un domaine imaginatif, c'est un domaine anarchique. Le domaine passionnel est anarchique. Et alors, troisième domaine, le domaine de la pensée. Alors là, je peux découvrir quelque chose qui est la connaissance d'un autre. L'imaginatif ne me donne jamais la connaissance d'un autre. Mais c'est la connaissance d'un autre vers lequel je respecte, vous voyez. C'est pas l'autre que je mange. Dans le domaine biologique, c'est l'autre que je mange, donc que je ne respecte pas. Si vous voulez, c'est une manière très élégante de le respecter, c'est de le manger, n'est-ce pas? Mais normalement, c'est quand même pas tout à fait le respect normal. Le respect normal, c'est de le respecter tel qu'il est. Et alors ça, c'est le domaine, troisième domaine, de la vie selon l'esprit. J'atteins l'autre. Donc vous voyez, au point de vue de la finalité, je mets en second lieu la véritable division des degrés de vie, c'est du côté du C modéré, donc la cause efficiente. Et l'autonomie dans l'ordre de la cause efficiente. Mais les deux causalités, vous voyez, ces deux causalités finales et efficientes m'aident à découvrir qu'en effet, il y a bien trois degrés de vie. Fondamentalement, il y a trois degrés de vie. La vie se manifeste avec ces trois autonomies différentes, elle se manifeste avec deux finalités, et elle se manifeste avec une zone anarchique. C'est très intéressant de voir qu'il y a une zone anarchique, qu'il y a dans la vie une zone anarchique. Donc la vie ne suffit pas pour finaliser, parce qu'il y aura toujours le point de vue de l'anarchie qui restera de l'emporter. Oui. Non, c'est déjà ça, beaucoup plus de... C'est l'intelligence, c'est pas l'imagination qui dit ça. C'est votre intelligence qui dit ça.
Est-ce qu'elle ne permet pas l'imagination?
Oui, mais c'est plus l'imagination. C'est votre intelligence qui veut réaliser et œuvrer. C'est pas votre imagination. La preuve, c'est quand vous décollez, vous ne réalisez plus jamais rien. Impossible de réaliser quelque chose. Vous êtes dans l'imaginaire, c'est tout. Vous avez des projets, oh, tu vas voir demain ce que je vais faire. Demain, je ne vois rien. Ça recommencera. Et après-demain, ce sera encore mieux. Et ça recommencera, ce sera l'imaginaire. Vous ne recommencerez rien du tout. Tandis qu'un artiste sait très bien, ça c'est l'intelligence. C'est le domaine du spirituel. Vous voyez? Alors la finalité qui est ou une œuvre, je veux réaliser une œuvre, où je veux réaliser, quand on va chercher la vérité. Oui. Le domaine imaginatif comme tel n'a pas de finalité. On en appelle tout le temps après. Oui.
Est-ce qu'il n'aurait pas pour finalité de l'équilibre affectif ?
Non. L'équilibre affectif vient de la volonté. C'est un autre chose, c'est pas l'imaginaire.
Une sorte de compensation.
Non. Ah, compensation, alors j'ai ça de les gars, de tous les échecs affectifs, je me reprends dans le fond imaginaire. Faites attention. Cette reprise imaginaire est très très dangereuse. À un moment donné, ce ne sera plus une compensation, ce sera elle qui va s'imposer. L'imaginaire est tyrannique, hein, comme toute position anarchique. Toute position anarchique est toujours tyrannique. Ça ne peut pas être autrement. Ça s'impose, voyez, comme quelque chose qui touche quelque chose d'infini. Ça n'a plus de limites. C'est très très curieux, ça. Alors, évidemment, je vois très bien, vous prenez le point de vue de l'intelligence, le point de vue de la volonté, les deux, nous allons le voir, se servent de l'imagination. Les deux se servent de l'imagination. Mais ça oriente, ça se sert de l'imagination. Et donc, ça met dans l'imaginaire quelque chose qui n'est plus l'imaginaire. Et alors, quand c'est la compensation, comme vous dites, se rattraper du côté imaginaire. Alors, quand on se rattrape du côté imaginaire, alors à ce moment-là, vous n'avez plus de finalité. Au point de départ, vous dites, oui, je vais me reposer du côté imaginaire. Attention, vous ne vous reposez pas. L'imaginaire n'est pas un repos. Il n'y a pas de repos, c'est anarchique. On ne se repose que dans la finalité. Que là où il y a une finalité. Pour l'organisme, c'est très important. C'est très important de comprendre ça. On ne se repose que là où il y a une finalité. Vous vous reposez dans un certain équilibre, du corps, donc de la santé. Là, il y a un repos, il y a une détente. On sait très bien quand on perd le sommeil, par exemple. La perte du sommeil provient de quoi ? Elle provient du côté imaginatif. C'est du côté imaginatif, la perte du sommeil. Et c'est pas du côté de la santé, c'est pas du côté de l'intelligence, pas du tout. Parce que vous avez envie de dormir. Vous dites, il faut dormir, mon petit. Ben oui, le petit, il gesticule dans tous les sens. Parce que, justement, c'est pas lui l'imaginaire. Tandis qu'il a beau mettre l'impératif catégorique, il faut dormir, c'est l'heure, il faut dormir. Eh bien non. Alors, évidemment, on peut faire ça comme un truc, n'est-ce pas, de dire, il faut dormir, au bout d'un certain temps, pout. Vous dormez, ça c'est vrai, ça peut être un moment, ça peut être, parce qu'à ce moment-là, vous calmez un peu l'imaginaire, vous voyez, vous calmez l'imaginaire, pas il faut dormir. Alors c'est un moyen, il y a des tas de petits trucs comme ça, mais qui sont des trucs, hein. c'est pas absolu. Il peut y avoir quelqu'un qui se met à compter, vous pouvez réciter votre chapelet, c'est une manière de réciter, alors ça apaise l'imaginaire, et c'est vrai du côté, je regarde du côté philosophique, indépendamment du côté éthique. Je regarde l'imagination, calmer l'imagination, drainer l'imagination vous permettra de dormir. Ça c'est sûr. Oui.
En lisant tout ce que vous venez de dire, on peut dire que la liberté naît avec la connaissance de l'autre.
Que là?
La liberté naît avec,
oui,
la connaissance de l'autre.
Toujours. C'est là où vous découvrez un autre domaine. Et donc vous découvrez une possibilité où l'autre est mon bien, voyez, où l'autre, je suis capable de me détourner de lui, où l'autre, c'est l'œuvre que je fais. Vous voyez, toutes les finalités, quoi. Je découvre un bien. Je découvre une finalité. La finalité ne se découvre qu'au niveau, au sens fort, hein, qu'au niveau spirituel. Et alors là, vous découvrez un nouveau degré de vie. C'est le degré de vie des finalités. Extrinsèque à vous, extérieur à vous. Donc, ça prouve que la vie, à ce moment-là, a quelque chose qui nous permet de sortir de notre immanence pour découvrir l'autre.
Oui, mais il nous rend plus libres.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Il nous rend plus libres.
Ah, nous rend plus libres. Ça, c'est une conséquence, vous voyez. Je ne le dis pas du côté des degrés de vie.
Et d'une certaine manière, si, parce qu'on a vu que seul le nous n'est pas lié radicalement à un milieu. Donc, seul le nous permet la liberté.
Oui. Ça se rejoint. Ça montre que le nous, c'est capable de choses. Tout à fait, ça se rejoint. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une fois quelqu'un qui voulait poser une question. Bon, alors, ça fait partie, vous voyez, ces trois degrés de vie, comment vous les prenez ? cause efficiente, cause finale. Et je crois que les deux doivent être prises, parce qu'au point de vue proprement vital, je ne peux pas les séparer. Toute efficience vitale implique une finalité. Mais au point de vue de l'analyse, je fais l'analyse. Et les deux se confirment, vous voyez. Je vois qu'au point de vue finalité, il y a le côté anarchique du côté degré de vie sensible. Et ça, c'est intéressant à noter. Parce que nous y reviendrons, c'est très important. Bon, maintenant, prenons l'autre division qui va se prendre du côté des opérations vitales. C'est-à-dire du côté spécifique, disons. Le côté spécifique des opérations vitales. Alors, on va essayer de comprendre. Alors, comprenez bien, hein, ce n'est pas étranger, puisque à l'intérieur de cette seconde division, je vais pouvoir dire telle opération vitale relève de tel degré de vie. Oui. Et donc, la puissance que je vais inférer, que je vais poser, je dirais cette puissance relève de tel degré de vie. C'est pour ça que je mets d'abord les degrés de vie, puis l'analyse des puissances. Vous allez saisir. Hein? Bon, nous allons prendre une opération vitale bien connue, n'est-ce pas? L'opération vitale de la nutrition. Je mange. Je mange les oignons d'Égypte. Et quand je mange les oignons d'Égypte, vous voyez, ça, c'est l'imaginaire. Hein? C'est l'imaginaire. Donc, c'est plus les oignons. Quand je mange la salade verte, je mange. N'est-ce pas? C'est manger, c'est la nutrition. Bon, je sais ce que je fais. Normalement, je sais ce que je fais. Je mange quelque chose qui est un aliment. Et quand c'est un aliment assez particulier, vous attendez que le voisin le prenne. Pour être sûr que c'est un aliment. Parce que... Et c'est comme ça que notre instinct alimentaire n'est pas suffisant. Alors nous regardons le voisin. Surtout quand on est dans un pays inconnu, on se dit, est-ce qu'il faut prendre ça, est-ce qu'il faut le manger ou pas? Bon, alors, l'aliment. L'aliment, au début, il est en dehors. Il est sur un plat ou une assiette, hein. Suivant qu'on est plus ou moins autre part. Alors, ça, c'est pas important. Ça fait partie des circonstances qui enveloppent l'aliment. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, de fait, l'aliment au point de départ est autre, et puis l'homme qui mange, l'homme qui se nourrit, fait que cet aliment qui est extérieur devient intérieur. Cette chose très curieuse. Ce passage de l'extérieur à l'intérieur. Il y a entre deux, hein, tout le point de vue de l'assimilation, la digestion, pour que ça devienne vraiment moi-même. Qu'est-ce qui spécifie cette opération point de vue vital? Pas si commode que ça, voir ça. Vous allez me dire, c'est pas la même chose si je prends de la salade, ou si je prends des pommes de terre, ou si je prends, c'est pas la même chose. Ah, attention, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est toujours une assimilation biologique. Toujours. Très cru, ça. Vous voyez là, c'est le bois, hein? Le bois que nous sommes, qui domine l'aliment. L'aliment ne spécifie pas telle nutrition, sauf si j'ai mal à l'estomac. Si j'ai mal à l'estomac, j'ai dit, ah, j'ai pris aujourd'hui cet aliment. Mais si vous digérez, vous ne dites pas, ma nutrition aujourd'hui, non, c'est votre nutrition, elle n'est pas spécifiée par tel ou tel aliment. Elle est spécifiée par tel ou tel aliment si vous avez mal à l'estomac. Il y a certaines plantes que je ne digère pas. Il y a certains aliments que je ne digère pas. Il y a certaines viandes que je ne digère pas. Vous voyez ? Certaines sauces. Et ainsi de suite. Hein. Bon, alors à ce moment-là, vous spécifiez négativement, c'est très curieux, du côté négatif, ce qui montre que la nutrition implique des circonstances particulières et la nutrition n'est pas n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Votre estomac digère certaines choses et notre estomac individuel, hein, il y a l'estomac de l'homme abstrait, n'est-ce pas, qui digère tel ou tel aliment, dira, ah, ça, c'est du poison. Pour l'humanité, c'est du poison. Non, n'en prenez pas. Si vous en prenez trop, c'est très dangereux. Donc ça, c'est le poison. Donc vous négativement, hein, c'est quelque chose que vous n'arriverez pas à assimiler, que vous n'arriverez pas à digérer, ce sera noxique. Ce sera quelque chose qui viendra détruire. C'est quelque chose qui viendra détruire, qui viendra mettre dans l'homme une dualité. Donc il sera tout de suite quelque chose qui est l'ennemi qui s'introduit à l'intérieur. Et l'ennemi qui s'introduit à l'intérieur va faire des complots. N'est-ce pas ? Avec toute une série de choses. C'est extraordinaire de voir ça, du reste. Quand on étudie de près ce que c'est que la simulation, on voit que c'est quelque chose d'invraisemblable. Et quand on étudie de près la possibilité d'empoisonner quelqu'un, vous voyez bien ce que ça peut représenter. Alors, vous voyez donc que l'aliment qui est extérieur devient intérieur et que le problème de la simulation n'est pas spécifié par l'aliment. Très curieux. L'aliment ne détermine pas l'assimilation. Mais tel aliment empêche l'assimilation. Tel aliment, je dis bien tel aliment, empêche l'assimilation. Mais l'aliment comme tel ne détermine pas. Je ne dis pas j'ai l'assimilation de la pomme de terre. J'ai l'assimilation de la salade. Non. Ce qui veut dire, voyez, que le sujet, quand il se nourrit, domine l'aliment et l'intègre. Il n'est pas dominé par l'aliment. Tandis que quand on dit que la réalité est objet, ah, c'est tout à fait autre chose. Voyez, puisque l'aliment, Aristote s'en sert comme première donnée objective. On verra ça la fois prochaine, parce que c'est ça qui sera très intéressant pour saisir la manière diverse dont on saisit les diverses opérations, les diverses puissances. Et puis qu'on peut les graduer du côté vie végétative, vie proprement psychique, au fond, la vie de la sensation, et puis la vie intellectuelle.